Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Dans cette émission, on va parler des tarifs, hein, parce que c'est quand
Vous
même
voulez dire des droits de douane?
des droits de douane. Mais cela dit, en France, avant, on disait tarifs aussi.
Oui.
Les tarifs Colbert, les tarifs Méline, etc. C'était
Oui. Il y
c'est
avait.
aussi le mot utilisé. Alors, c'était pas avec, je crois que c'était pas avec deux F, hein, c'était tarif écrit en français, mais on disait tarif aussi, mais qu'on traduit effectivement aujourd'hui par droit de douane. Et alors déjà, je voudrais commencer sous un angle assez général, c'est-à-dire que vous êtes quand même un libéral, je crois qu'on peut le dire, on peut le.
Oui.
Non mais je suppute, hein,
J'ai honte.
je.
J'ai honte. Ça me, je suis dans, je dois être, on doit être prêt à être rentré dans une cabine téléphonique en France.
Voilà,
On doit être trois.
c'est un peu ça. Et en plus de ça, les trois s'excluent à chaque fois
Oui, non, mais
les
on
uns
n'est
les
pas
autres en disant
parents.
non, mais lui, c'est pas un vrai
Non,
libéral, machin.
non,
Donc
c'est
c'est.
un libéral de pacotille.
Voilà. Et par conséquent, vous êtes quand même pas très opposé au libre-échange. Vous appréciez les gens comme Margaret Thatcher, Ronald Reagan, bien sûr.
Bastia et tout, oui.
Bastiat, Friedman, bref. Et ces gens-là étaient aussi assez réticents à tout ce qui était protectionnisme, droits de douane, etc. Pour autant, vous n'êtes pas particulièrement dur avec ces tarifs que Trump est en train d'implémenter.
Non.
Et donc, je voudrais comprendre, je voudrais me mettre à la place d'un libéral qui peut-être ne comprend pas tout ce qui se passe, pour que vous expliquiez un peu pourquoi, même en tant que libéral, même en tant que pro-libre-échange, etc., bah vous pensez que peut-être, c'est pas un blanc-seing, mais peut-être c'est pas une mauvaise idée tout ça.
Alors, on va essayer de défense du libéralisme, du commerce libre, a été fait dans le courant du 19e, en particulier par des gens comme Bastiat, mais il y en a eu bien d'autres. Et l'idée de base, c'était qu'on échangeait des produits contre des produits. C'est-à-dire, Ricardo, quand il parle du libre-échange, il parle d'un côté du Portugal qui vend du Porto, et de l'autre côté, les Anglais qui vendent du tissu au Portugal. Et on dit, comme c'est plus facile de faire du Porto au Portugal que de faire du Porto compte tenu du climat en Angleterre. Donc chacun se spécialise dans ce qu'il fait le mieux, et du coup, tous les deux ont plus de draps pour les Portugais, plus de Porto pour les Anglais, et tout le monde est content et gagnant en fin de parcours. Donc ça, c'est le raisonnement des avantages comparatifs qui est absolument imbattable. Donc ça, c'est vrai. La réalité n'a pas été ça dans le monde dans lequel on vit. C'est que, par exemple, aux États-Unis, vous aviez les gens qui vendaient des produits aux États-Unis, et on leur donnait pas des produits en échange. On leur donnait un billet vert. Il s'appelait le dollar. Et pourquoi les gens acceptaient le dollar? C'est qu'avec ce dollar, ils pouvaient aller voir l'Arabie Saoudite et acheter du pétrole. Et donc les États-Unis vous donnaient un moyen de paiement qui permettait au Japon ou à l'Allemagne de faire des voitures. Puis ensuite, une fois qu'ils avaient vendu leur voiture, ils recevaient un billet vert qui permettait de faire d'autres voitures, mais à la fin, ils se retrouvaient avec rien, ayant vendu plein de voitures, si c'était des tas de billets verts. Et si le billet vert n'allait plus rien, ils étaient complètement couillonnés.
Absolument.
Donc ça, c'est si vous échangez bien contre bien, ça va bien. Mais si vous échangez bien contre titre de paiement à venir, comme une monnaie ou une obligation, ben vous avez plus d'usine de voitures aux États-Unis. Le type en face, il a plein de billets verts, et puis vous vous retrouvez tous les deux en fin de parcours, ayant beaucoup perdu. Donc, ça ne paraît pas un système parfaitement honorable. Alors, ça, c'est la première des choses qu'il faut dire. La deuxième, c'est qu'au 19e, ça marchait parce que on avait l'étalon or. C'est-à-dire, si l'Angleterre vendait un peu trop de draps au Portugal, qui ne pouvait pas vendre là, quand la même valeur en Porto, ben, il y avait un solde qui se créait et ce solde était réglé en or. Et comme la masse monétaire au Portugal et en Angleterre était régie par la quantité d'or qu'ils avaient, le Portugal avait moins d'or, donc son économie se contractait, mm-hmm. ce qui fait qu'ils achetaient moins de draps. Et comme il y avait plus d'or qui arrivait en Angleterre, l'économie se... Donc, c'est fait qu'ils achetaient plus de Porto. Et en fin de parcours, ça se rééquilibrait.
Ouais.
Mais à partir du moment où on a inventé les déficits budgétaires, les dettes et tout, maintenant, vous pouvez donner des obligations de l'État français.
Ouais.
Et donc, vous achetez les machins chinois et vous vous retrouvez sans usine au bout de certains temps, mais avec une dette considérable qu'il faut payer aux Chinois et vous n'avez plus d'outils de production. Donc, c'est un système qui marche, le libre-échange, pour peu qu'il y ait une quantité limitée de l'outil pour faire les arbitrages,
ouais.
pour peu que les taux d'intérêt ne soient pas manipulés, pour peu que les taux de change ne soient pas manipulés, pour peu qu'il n'y ait pas de déficit budgétaire, pour peu qu'il n'y ait pas de recours à la dette pour payer les actifs, etc. etc. Donc, c'est-à-dire que ça fait maintenant, depuis 72, que le dollar est devenu flottant, ben, qu'on n'a plus vraiment un système équivalent, puisque les taux d'intérêt sont manipulés, les taux de change sont manipulés. Donc aujourd'hui, je n'ai pas la moindre idée de qui est le producteur le plus efficace. Il me semble que c'est la Chine. Mais en même temps, si le renminbi chinois allait au niveau où il devait aller, peut-être il ne serait pas si efficace que ça.
Ouais.
Quoi. Donc je veux dire, tout ça, il y a tellement de bidouillage dans tous les sens que j'ai l'impression que celui qui gagne au commerce international, pardon, aujourd'hui, c'est celui qui a les plus grosses subventions, quoi. Ou qui a une filiale en Irlande.
Ouais.
De façon à ne pas payer les impôts qu'il devrait payer, etc. Donc, c'était simple dans un monde qui était beaucoup plus simple où il y avait des taux de change fixes, les talents or, et puis ben vous payez avec le produit ou alors vous donniez l'or que vous aviez en trop. Mais aujourd'hui vous pouvez donner des obligations, du cash, du cash d'un autre pays que vous avez gardé en réserve. Donc c'est tellement manipulé aujourd'hui que et le vrai problème. Mais je vais dire ça aussi, c'est que les États-Unis, ils avaient ce qu'on appelle le privilège impérial. C'est-à-dire que, de tous les pays du monde, ils étaient le seul à ne pas avoir de contraintes du commerce extérieur. C'est-à-dire que les États-Unis avaient un déficit, vous avez acheté trop de vin français, allez. Et donc, vous alliez les voir en leur disant, dis donc, j'aimerais bien avoir, je sais pas quoi, ce que vous produisez, allez, donnez-moi un petit peu de bourbon, ou je sais pas quoi. Elle me dit, ah non, ça marche pas comme ça pour nous. Nous, on va vous donner un chèque.
Ouais.
Sur le dollar. Donc, c'est comme vous, dans votre famille, on vous dit, mon cher Léo, votre banquier vous appelle, vous avez un déficit sur votre compte en banque, et vous dites, ça n'a aucune importance, je vais vous faire un chèque. Vous voyez, c'est pratique.
Oui.
Vous aimeriez que ce soit comme ça.
Oui, bien sûr.
Mais ça vous inciterait pas à bosser. Ni à développer un appareil industriel pour vous permettre de vivre selon vos moyens. Donc, au bout de... Ça s'est passé pour la Grande-Bretagne, ça s'est passé pour tous les pays qui avaient une monnaie dominante historiquement. C'est qu'au bout d'un certain temps, à partir du moment où ils peuvent payer après leur propre monnaie, plus personne ne fout plus rien, tout le monde veut travailler pour l'État,
ouais.
Tout le monde veut travailler dans des postes prestigieux, et plus personne ne veut serrer des boulons. Quoi. C'est, ouais. Et ce que dit Trump, c'est qu'il veut réintroduire des gens qui font des trucs. Quoi.
Est-ce que par conséquent, on peut dire, on va en reparler un petit peu dans ce document, est-ce qu'on peut dire que le dollar est trop fort ?
Ben, il n'est pas trop fort, parce que c'est un drôle de truc. Ce que vous achetiez quand vous aviez des dollars, c'est que vous achetiez quelque part, vous alliez vous balader partout dans le monde, vous pouviez donner des dollars, c'était toujours accepté, c'était donc une monnaie qui est généralement acceptée. C'était une monnaie aussi qui était qui vous assurait une certaine protection militaire. Donc ça, vous n'aviez pas besoin d'avoir une protection militaire puisqu'il la faisait pour vous. Donc il y avait des tas d'avantages, le dollar. Mais au bout d'un certain temps, ces avantages sur le dollar amènent toujours, comme ça s'est passé pour la Grande-Bretagne, à une désindustrialisation du pays.
Oui.
Et comme c'est pas grave si vous êtes à la tête d'un empire, comme l'était l'Empire britannique, ils s'en foutaient d'où ça se faisait. Ils avaient l'Inde, ils avaient une partie du Moyen-Orient, donc ils s'en foutaient, c'était... Si vous avez besoin de pétrole, ils allaient le chercher directement. Mais à partir du moment où vous êtes, où vous ne pouvez plus être un empire parce que vous ne dominez plus militairement, à ce moment-là, la question se pose, Qu'est-ce qui se passe si les gens, par exemple, qui vendent des choses aux États-Unis n'acceptent plus les dollars en paiement et veulent quelque chose? Soit des titres de propriété aux États-Unis, la terre ou des immeubles, soit des produits. Ouais. Ben, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, ben, le dollar, il perd sa valeur. Quoi. Ce qui passe en Angleterre. Donc, on ne peut pas ne pas être contre pour le libre-échange, mais... les économies ont été tellement manipulées dans tous les sens depuis 30 ans que quiconque me dit qu'on a été dans un système de libre-échange, je rigole doucement, quoi. C'est pas vrai du tout. On a été dans un système de capitalisme de connivence. Où les grands, regardez, si le libre-échange marchait, s'il n'y avait pas d'intervention, il n'y aurait pas plus de lobby à Bruxelles qu'il n'y a de parlementaires.
Oui.
C'est-à-dire, à quoi ça sert de faire un lobby?
Alors ça, c'est clair qu'il y a quelque chose, il y a un phénomène qu'on voit cette semaine, c'est qu'il y a des défenseurs du libre-échange qu'on n'imaginait pas, dans tous les sens.
Je sais pas, on voit M. Attali d'un seul coup expliquer que maintenant qu'on a une libre-échange sur, on n'a plus de libre-échange sur les bagnoles, l'économie va s'effondrer. Bon, enfin, c'est pas nouveau ça, M. Attali, il n'a jamais rien compris à l'économie. Et d'ailleurs, il en était fier, mais... Non, vous avez toute une série de gars... Alors, si je devais être parfaitement cynique,
oui.
Je dirais que c'est très difficile de se faire corrompre sans que ça se voit dans un système fermé. Parce que, ben, si vous voulez, je sais pas, si quelqu'un touche quelque chose, il y a quelqu'un d'elle qui l'a payé, ça se retrouve, et puis vous pouvez vous faire choper. Mais dès que vous passez dans le système international, vous avez des endroits où se passent des choses comme les paradis fiscaux, etc. Et donc, vous prenez une mesure en France qui amènera à un gros versement de commission, mais qui se passera dans un endroit tout à fait... vous ne pouvez pas. Donc, le commerce international, c'est quand même l'outil essentiel de la corruption des classes politiques. Donc, vous comprenez tous pourquoi ils poussent des cris, quoi. Parce que... Trump veut remettre l'industrie au centre des États-Unis et donc empêcher la corruption qui se passait par l'intermédiaire des importations américaines. Autrement, donc, si vous voulez, il est très désagréable, ce type. Ouais. Il empêche les gens d'être corrompus tranquillement. Vous pensez qu'il y a de quoi crier, quoi. Je sais pas, mais...
Oui, certainement. Et je voudrais reprendre un petit visuel financier. Alors, bien qu'on soit sur l'Institut des Libertés et pas sur l'Université de l'Épargne, donc je vais expliquer un petit peu. C'est une heat map, c'est-à-dire c'est une sorte de carte des entreprises américaines. Celles qui sont en vert, c'est celles qui performent positivement depuis le 1er janvier de cette année. Mmh. Celles qui sont en rouge, c'est celles qui performent négativement. Mmh. Et vous avez à chaque fois, c'est proportionnel à la taille de la capitalisation de l'entreprise. Et puis c'est aussi par secteur de l'économie. Et donc on voit que ceux qui prennent le plus cher, c'est les bien connus Magnificent Seven, Microsoft, Google, Meta, Nvidia, Apple, Amazon ainsi que Tesla, qui voilà, on a
qui est un peu un cas à part parce qu'ils sont aussi dans la voiture électrique et autre chose.
Oui. Et puis en plus de ça, Tesla pour le coup, sa valeur avait tellement augmenté juste après.
Et puis en plus, il y a Musk qui a beaucoup aidé des Trump, alors il y a des tas de gens qui détestent Trump, qui du coup mettent le feu au Tesla, donc ça fait mauvais effet, quoi.
Voilà, c'est sûr. Non, mais Tesla, c'est un stock très particulier. C'est pas tout à fait, le comportement de ce stock n'est pas tout à fait le même que les autres. Mais, comment dire, les plus alarmants, c'est Nvidia, Apple. Amazon, c'est pas terrible aussi. Enfin, bref.
Tout ça, c'était des valeurs, comme j'ai expliqué dans une ou deux notes. Ouais. Qu'on a pondu là, c'était des valeurs qui avaient une caractéristique essentielle, c'est qu'elles étaient tellement bien organisées qu'elles payaient jamais d'impôts.
Tout à fait.
D'après l'autorité des marchés financiers, 7 Français sur 10 estiment que les investissements en actions sont réservés à ceux qui s'y connaissent vraiment. Donc vous avez de fortes chances d'en faire partie. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez aussi rejoindre le club de ceux qui s'y connaissent et c'est beaucoup plus facile que vous ne le pensez. Pour commencer à apprendre les bases de la finance et de la gestion de portefeuille, ça se passe ici, sur l'Université de l'Épargne.
Et c'est ce que je voudrais expliquer un petit peu aux gens comment fonctionne une société plateforme. Donc là, par exemple, j'ai sous les yeux un visuel qui montre combien ça coûte de faire un iPhone. Alors c'est quel modèle ? C'est l'iPhone 16 Pro. Alors l'iPhone 16 Pro, il est vendu en magasin 1229 dollars aussi. Il y a même prix. Il y a pas de taux de change là-dessus. Il coûte à produire 550 dollars.
C'est plus que ce que je pensais, oui.
D'un point de vue matériel, c'est sans parler du marketing, etc. Enfin, sans parler de tout ce qui se fait sur le sol des États-Unis. Et d'après une estimation, avec les tarifs appliqués sur la Chine, le coût de production passerait donc de $550 à $850. Donc, ça fait $300 de plus. Alors, est-ce que Apple est prêt à faire payer son téléphone $300 plus cher ?
Là, si je vous arrête là, c'est que logiquement. S'il y avait, pour revenir à l'exemple de le Portugal et la Chine, s'il y avait la Chine et le Portugal et l'Angleterre, s'il y avait la Chine et les États-Unis dans un scénario normal,
ouais.
L'autre, Apple produirait son téléphone à 550, le vendrait à 1200,
ouais.
Ferait, allez, mettons, $650 de profit, mm-hmm. dont un tiers irait au gouvernement américain, mm-hmm. le ouais. bénéfice.
Tout à fait.
Et puis deux tiers resteraient à Apple. Mais c'est pas ce que fait Apple.
C'est pas tout. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que vous avez, en gros, vous avez une société en Chine qui produit les téléphones Apple. On va l'appeler Apple Chine. Apple Chine.
En fait, c'est Foxconn. Il appartient même pas. C'est une société indépendante, mais qui travaille pour Apple.
Voilà. Et ensuite, cette société va vendre des téléphones à une société Apple irlandaise pour quasiment le prix de production. Donc là, la marge va être assez faible. Mmh. Et donc, on va avoir Apple Irlande qui va recevoir des téléphones qui coûtent pas cher, super. Apple Irlande va ensuite vendre ses téléphones pour quasiment le prix pour lequel il va être vendu en magasin à Apple USA. Et donc Apple USA, ensuite ils vont revendre ses téléphones et pareil, ils vont faire une marge très faible dessus. Et l'intermédiaire, c'est Apple Irlande qui aura simplement fait un truc, c'est acheter des téléphones pas chers pour le revendre très cher à une autre société. Et donc c'est là que va être le bénéfice sur
téléphone. Oui, et ce qui est étonnant, c'est que dans le scénario que vous venez de décrire, l'État américain ne touche pas un sou.
Oui.
Puisque la différence, c'est que Apple Irlande est taxé à 2 ou 4 %, ça dépend.
Je crois que 5 ou 6, il me semble, je ne sais plus.
J'avais dit entre 2 et 4. Ouais. Enfin, et aux États-Unis, ça aurait été 30.
Ouais.
C'est-à-dire que par une astuce qui est due à la dématérialisation de nos sociétés, Apple monte un système qui est parfaitement optimisé pour que ne paye pas d'impôts. C'est ce qu'on fait. Donc, ce que fait en mettant des tarifs, c'est que ce brave Trump, il attaque pas tellement les autres pays, il attaque les grandes multinationales américaines en leur disant bah, « Très bien, si vous voulez vendre aux États-Unis, bah, vous produisez aux États-Unis, sinon je vais vous coller les impôts que vous auriez dû payer de toute façon.
Ouais. »
C'est-à-dire qu'ils essayent de dire à Apple « Votre histoire d'Irlande, ça marche plus.
Ouais. »
Donc c'est une attaque directe sur les 7 magas là, qui faisaient tous la même chose.
Tout à fait, c'est-à-dire que le fisc américain estime que ces entreprises que j'ai citées avant, la Big Tech, par ce genre de procédé, en fait, permet d'économiser 40 à 50 milliards de dollars par an. Le fisc américain se dit, si ces sociétés-là, elles n'étaient pas en Irlande, mais qu'elles étaient aux États-Unis, elles nous paieraient 40 ou 50 milliards par an.
Chacune ou en tout ?
En tout. Alors après, peut-être qu'il y a encore d'autres entreprises.
Ça ne paraît pas beaucoup.
Ça fait quand même une bonne partie des recettes qu'on estime pouvoir percevoir venant des tarifs qu'on estime.
Oui, ils vont peut-être réussir, mais il me semble qu'ils ont piqué plus que ça. Mais l'idée de base, c'est qu'aussi, comme elle ne payait pas d'impôts, elle pouvait distribuer de très gras dividendes.
Oui, bien sûr.
Et donc, la valorisation boursière était extraordinairement élevée. Et donc, ça leur permettait d'acheter leurs concurrents moins chers, de faire des opérations sur leurs concurrents pour essayer d'éviter d'avoir la concurrence et tout.
C'était donc impossible de concurrencer ces entreprises-là.
Impossible. C'est... Tandis que maintenant, donc, elles vont devoir payer des impôts et leur capitalisation boursière baisse automatiquement de la valeur actualisée des impôts qu'elles vont payer, qu'elles ne payaient pas avant, quoi.
Ouais.
Et puis donc, c'est pour ça qu'elles ratatinent.
Et peut-être des nouvelles marges aussi qui vont devoir...
Les marges, elles ont passé de 90, mettons, allez, on a vu combien, mettons, 600, $700, allez, $700. Elles ont passé de $700 à $700 moins les tarifs, c'est-à-dire à 400, quoi. C'est-à-dire, c'est-à-dire que, vous savez, c'est tout ce qu'on a souvent expliqué ici, c'est la différence entre la fragilité et l'antifragilité. Les sociétés comme Apple ont bâti un système qui est tellement efficace qu'il est extraordinairement fragile.
Ouais.
C'est-à-dire qu'au bout d'un certain moment, les États se sont dit, où sont mes milliards de dollars? Et donc, ils se débrouillent. Et Apple, en étant extraordinairement fragile, fragilisait l'État américain qui n'avait pas les ressources qu'il aurait dû avoir pour normalement faire tourner ses business. Donc, ce que cherche à faire Trump, c'est à rendre l'État américain plus antifragile, ce qu'il doit être. D'ailleurs, c'est le rôle d'un État d'être antifragile. Et là, il va présenter une bonne partie d'addition à ces sociétés.
Ouais, tout à fait. Et par exemple, il y a cet exemple. J'étais en train d'écouter tout à l'heure l'interview de Bessent, donc le secrétaire du Trésor chez Tucker Carlson, et il citait l'exemple du Covid, parce que pendant le Covid, on a eu une pénurie notamment de semi-conducteurs. Donc il y avait tout le secteur informatique qui était un petit peu en panne à ce moment-là, puisque on avait un système qui était très efficient, très efficace, très optimisé.
À condition que les gens puissent voyager.
À condition que les gens puissent voyager, à condition que Taïwan ne cesse pas sa production du jour au lendemain. Et par conséquent, pour éviter ce genre de problème à l'avenir, il faudra faire peut-être des micros, des semi-conducteurs sur le sol américain. Alors voilà, on respecte pas la théorie des avantages comparatifs. Peut-être qu'on va les faire plus cher.
Mais ce que n'est pas la théorie des avantages comparatifs, c'est que si vous avez une société qui est gérée en fonction de la rentabilité marginale du capital investi, ce que suppose la théorie des avantages comparatifs, même si Ricardo ne le savait pas, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, vous avez des tas de choses qui sont extraordinairement efficaces. La rentabilité du capital est très forte. Mais s'il y a un tremblement de terre au fin fond de la terre, à un endroit où il y a une usine qui était nécessaire, votre production s'arrête.
Oui.
C'est-à-dire que vous avez un système extraordinairement efficace, mais extraordinairement fragile.
Oui.
Des lignes de communication qui sont très longues et qui peuvent être coupées à tout moment. Donc, le but d'un gouvernement, c'est de trouver un équilibre entre la fragilité et l'antifragilité. Parce que les Suisses ont très bien fait, encore une fois. Ils ont gardé comme antifragile l'énergie et la bouffe, et puis le reste, démerdez-vous. Donc, c'est bien. Mais vous pouvez pas monnaie un pays, en quelque sorte, ce que disait De Gaulle. Dans une interview célèbre, il avait dit « La politique de la France ne se fait pas à la corbeille. » La corbeille, à l'époque, c'était la bourse.
Ouais.
Donc, ça veut dire qu'il faut prendre en compte la rentabilité marginale du capital investi dans toutes les activités qui ne touchent pas à la souveraineté. Mais il y a des endroits où, si vous faites ça, vous vous condamnez à mort. Quoi. Enfin, vous devenez extrêmement vulnérable.
Ouais.
Donc, encore une fois, c'est comme les gens me disent « Mais il faudrait mettre des hommes d'affaires à la tête de l'État. » Je dis « Surtout pas. » C'est que gouverner, c'est faire, ça peut être intuitif aussi, mais c'est faire un équilibre entre la fragilité et l'antifragilité. Ce que vous cherchez dans un pays, c'est qu'il soit résilient, c'est-à-dire qu'il soit capable de résister aux chocs. Et des trucs comme justement l'Europe, là, ben, ils ont augmenté la fragilité de nos systèmes de façon extraordinaire, et ils ont fait baisser la résilience du pays de façon extraordinaire aussi. Donc c'est... gouverner, c'est pas facile.
Non, c'est sûr. Bah, il y a des arbitrages à faire qui sont.
Il y a des arbitrages, justement.
Tout à fait.
Des arbitrages. Et ce que fait Trump, c'est d'ailleurs les arbitrages ont été du mauvais côté. On a beaucoup trop favorisé le côté financier. Allez, et il faut maintenant revenir au côté humain.
Ouais, c'est là-dessus il y a une expression qui est souvent utilisée, c'est Wall Street contre Main Street.
Voilà, c'est exactement ça.
Alors qu'est-ce que ça veut dire Main Street?
Wall Street, vous savez, partout vous avez des gens de gauche, mais pas que des gens de gauche, beaucoup, des gens de droite aussi, qui parlent des excès de la financiarisation. Mais c'est ce qu'ils veulent dire. Mais ce qu'il y a de marrant, c'est que ces gars qui gueulent contre les excès de la financiarisation, vous les écoutez aujourd'hui, ils sont tous vent debout contre les droits de douane de Trump. Donc vous dites, attendez les gars, il fait ce que vous demandez depuis des années.
Oui, oui.
Mais pourquoi vous gueulez?
Oui, d'un seul coup, on voit des communistes s'affoler que la bourse de New York s'effondre de 20% en quelques semaines. On devrait dire, les gars, vous devriez être contents quand même.
Non, mais c'est justement parce qu'il y a plus de la valeur ajoutée qui va aller vers le gars Joe Sixpack, c'est moins qui va aller à Bill Gates.
Oui.
La société avait été optimisée pour que Bill Gates gagne le maximum de pognon.
Ouais.
Bon, à mon avis, il en a assez. On peut peut-être passer à Joe Sixpack, ça me marrait mieux. Et donc, c'est là où je me rends compte, c'est ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, mais ça fait rien. Ce qui me rend compte d'un truc très intéressant, c'est que la caractéristique de l'homme de gauche, c'est qu'il peut avoir deux idées contradictoires dans la tête. Et que ça le gêne
absolument,
pas.
Absolument, oui.
Un homme de droite, en principe, il essaye de se faire
aider. C'est pareil. Il y a eu encore l'illustration de ça hier. Je voyais beaucoup de communistes ou autres assimilés sur Twitter dire ah bah vous voyez la bourse de New York s'effondre. Alors vous nous vendez la retraite par capitalisation, c'est n'importe quoi. Vous voyez bien, c'est nul. Et puis trois mois avant, ils étaient en train de gueuler sur à quel point les actionnaires s'enrichissaient grassement sur dans la finance avec les dividendes, les plus-values, etc. On a envie de dire non mais face je gagne pile tu perds quoi.
Oui, non mais c'est surtout l'homme de gauche que je veux pas. Il a aussi une capacité extraordinaire à faire des photos et à jamais regarder le film. Je veux dire par là, c'est que s'il y a quelque chose qui se passe qui est mal aujourd'hui, ce que j'appelle une photo, oui, il va vous parler de ça en disant oui, regardez c'est beau oui, bon, la bourse de New York se pète la gueule. Oui. Mais il va pas vous dire que depuis 20 ans, on s'est fait plein de pognon dans la bourse de New York oui. et que on n'aurait eu aucun problème de financement des retraites
absolument.
Si on avait investi.
Absolument.
Donc, eux, ils ont la spécialité de l'anecdote. C'est-à-dire, regardez, il y a le jeune homme de 18 ans qui avait été embauché par USAID et qui perd son boulot et qui sait pas ce qu'il va faire. Alors, ils vont parler de ce gars-là pendant 3 semaines, mais sans vous parler des centaines de milliards de corruption qu'avait fait USAID. Donc, dès que quelqu'un vous donne un exemple précis, plutôt que vous raconter une histoire, moi, j'aime pas la photo. Pour comprendre l'économie, regarder le film.
La photo, à chaque fois, c'est sous un certain angle, avec une certaine luminosité, et puis voilà.
Puis vous dites, regardez, ça marche pas. Ouais. Non, le fait que je me sois cassé la gueule en bicyclette ne veut pas dire que la bicyclette est un mauvais outil, quoi.
Absolument.
Donc, c'est toute cette façon, si vous voulez, de prendre des exemples ponctuels qui veulent rien dire, c'est très fatigant.
Oui, au contraire, on a envie de leur répondre que justement, malgré toutes les crises qui arrivent...
Mais c'est parce qu'il y a des crises que ça marche, le capitalisme. Les gens parlent du mal à comprendre. Le capitalisme, c'est le système qui a des crises, qui permet de nettoyer le bois mort. Bon, dès qu'il n'y a pas de crise, on se retrouve en France, et on n'a pas de crise, d'abord tout le monde s'ennuie, et au bout d'un certain temps, on a une crise ultime qui voulait être comme l'Union soviétique, quoi, où tout disparaît. Donc, la vie, c'est de passer de crise en crise, quoi.
Absolument. Et là-dessus, alors j'ai lu un document de 40 pages que j'ai trouvé très intéressant, qui ne donne pas forcément toutes les clés de compréhension pour comprendre ce qui se passe, mais d'un économiste qui s'appelle Stephen Miran, qui est un économiste qui est assez proche à l'heure actuelle depuis quelques semaines du gouvernement américain, de la Maison Blanche, et qui avait fait donc un document c'était en novembre dernier sur justement les tarifs, où il disait voilà quel est un peu l'état de la finance internationale aujourd'hui, quels sont les avantages et les désavantages pour les États-Unis, qu'est-ce que les Américains en pensent aussi, c'est-à-dire qu'est-ce qui a provoqué déjà dans un premier temps l'élection de Donald Trump en 2016, c'est qu'il y a bien des gens qui étaient mécontents du système tel qu'il était fait.
Parce que c'était un système qui est optimisé au maximum, comme celui qu'il y a eu avant. C'est un système où qui va favoriser de façon tout à fait évidente ceux qui détiennent le capital.
Absolument.
Et ceux qui travaillent, ils seront payés à leur valeur marginale.
Ouais.
Mais
ouais.
Donc ceux qui auront le produit de l'excès de résultats créés par ce système, ce sont les riches. Mais de temps en temps, on est content que les riches s'enrichissent, mais il y a aussi, il faut pas que la classe la plus populaire s'appauvrisse.
Ouais.
Or, c'est à quoi on arrivait par un excès de...
Ouais, c'est ça, c'est qu'il y a un décalage. Alors, le niveau de vie global américain est très bon, mais quand même, à l'intérieur du pays, les richesses des 10% les plus riches ont beaucoup plus augmenté en valeur que celles des 50%.
Oui, ce qui n'a pas beaucoup d'importance, mais aussi ce qui s'est passé, c'est qu'il y a l'ouverture au monde international, la disparition d'un certain nombre de secteurs dans l'industrie américaine, a fait que le niveau de vie des plus pauvres a baissé. Alors que les riches s'en mettent plein les fouilles, tout le monde s'en fout, mais il ne faut pas que les pauvres deviennent plus pauvres, parce que ça, c'est pas acceptable.
C'est ça.
Or, c'est ce qui s'est passé, c'est pour ça qu'ils ont voté.
Et ce qu'explique Miran, justement, dans son document, c'est qu'il y a tout un tas d'emplois, forcément, peut-être dans l'industrie textile ou autre, qui ont été perdus, justement, parce qu'il y a plein de trucs qui ont été délocalisés en Chine.
Voilà,
automobile, bien sûr.
Automobile, c'est parti au Mexique, alors.
Absolument. Donc, il y a, alors, bien sûr, il y a des millions d'emplois qui ont été perdus, il y en a des millions d'autres qui ont été été créés, notamment dans le domaine de la technologie, etc. Donc on se dit peut-être au global, le pays, les États-Unis sont gagnants parce que on délocalise des métiers à plutôt faible valeur ajoutée pour en créer d'autres à plus forte valeur ajoutée. Mais il y a des Américains, des citoyens, des petites communautés dans lesquelles il y a pas mal d'emplois qui ont été perdus justement dans ces domaines-là et où c'était plus dur de retrouver un emploi ailleurs.
Bah oui, parce que c'est très vrai, il faut déménager, il faut tout ça. Mais prenez quelque chose qui est tout à fait évident, c'est les voitures aux États-Unis. Ouais. Ce qu'ils ont décidé, c'est que ça allait être beaucoup moins cher de mettre les puces compte tenu des avantages, etc., de les usines au Mexique pour faire les voitures pour les États-Unis. Donc, il y avait une classe moyenne industrielle qui vivait à Détroit, qui vivait partout. Et d'un seul coup, elle a perdu son boulot. Mais il y avait que des bagnoles à Détroit, c'est tout ce qu'on faisait. Ouais. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que Détroit est devenue une ville poubelle.
Ouais.
Une ville où il n'y avait plus de boulot. Et par contre, en Mexique, ça marchait bien. Mais c'est arbitré, en quelque sorte, de la part de Ford ou de General Motors, c'est arbitré son propre peuple contre un autre qui est moins cher.
Ouais.
Et vous laissez la charge de ceux qui sont là au milieu au gouvernement, à qui vous vous débrouillez pour ne pas payer d'impôts. Donc, il me semble que là, il y a une espèce de problème. Je sais que tout ça est légal. Mais encore une fois, la légalité, c'est bien, mais c'est mieux si on a à la fois la légalité et la légitimité. Quoi. Et encore une fois, la façon dont les Américains achetaient leur truc autrefois, Ford, il avait augmenté ses ouvriers de façon à ce qu'ils puissent acheter leur voiture. C'était la grande idée de Ford, donc c'est ce qu'ils ont fait, ça a permis de lancer la voiture. Mais aujourd'hui, c'est pas ce qui se passe. Vous mettez l'usine là-bas où les ouvriers sont pas très bien payés, au Mexique. Vous renvoyez les usines pour être vendues aux États-Unis. Et littéralement, c'est les subventions sociales qui sont payées par de la dette qui achètent les voitures. Vous voyez ce que je veux dire? Vous dites pas, attendez une seconde. Donc c'est l'État américain qui s'endette pour payer les gars qu'il a mis au chômage à Chicago, et qui vont ensuite payer les ouvriers un salaire de mineur ici.
Ouais.
Ce serait plus simple de laisser les usines là et qu'ils gagnent avec qu'ils le payent avec ce qu'ils gagnent plutôt qu'avec ce qu'on leur file. Donc ça crée aussi une société de subvention pour soutenir ceux qui sont et ça pêche là justement la société de subvention. Donc tout ça, c'est des histoires de corne à cul, quoi.
Ouais. Et puis, il faut dire, il y a plusieurs visions du protectionnisme. Et par exemple, il peut y avoir une vision un peu française où là, on va avoir l'État stratège qui lui va dire, non, mais il faut pas délocaliser vos trucs en Chine ou je sais pas où. Vous allez remettre ça en France. Et puis d'ailleurs, l'État prend le contrôle du capital de votre entreprise. Et puis, c'est nous qu'on décide qu'on a la vision stratégique de
machin. Et tant qu'on peut emprunter de l'argent, on continue à en perdre.
Voilà. Et on augmente les cotisations. On augmente les impôts, bref. Et là, on aurait donc un protectionnisme, mais avec aussi en contrepartie une dérégulation très intense du capitalisme interne. Donc, beaucoup moins de régulation, des baisses d'impôts, de taxes dans tous les sens. Donc d'un autre côté, les entreprises pourraient avoir plus de chances d'être compétitives aux États-Unis qu'elles n'auraient pu l'être avant.
Oui, tout à fait.
Voilà, donc ça relance quand même.
Il y a un gros débat aux États-Unis. Il y a des États où, vous savez, il y avait un certain nombre d'activités aux États-Unis qui ne pouvaient être faites, en particulier tout ce qui touchait aux commandes de l'État ou de l'État local, qui ne pouvaient être faites que par des gens qui étaient syndiqués. Et donc, il y a eu toute une série de procès, etc. Et donc, aux États-Unis, il y a des États qui pratiquent.
Ouais.
Par exemple, tous les travaux publics ne peuvent être faits que par des travailleurs syndiqués. Mmh. Et d'autres qui disent, non, c'est ouvert à tout le monde. Et en effet, les États où il n'y a pas ces contraintes ont beaucoup plus d'emplois que les États où ils existent, c'est normal.
Ouais.
Et donc vous pouvez avoir aussi une façon de jouer à l'intérieur du même pays les contraintes syndicales, par exemple, qui entraînent des coûts. C'est pour ça que c'est toujours mieux, si je peux me permettre, de ne pas intervenir. Il y a des moments où le système capitaliste, si j'ose dire, va trop loin et entraîne une énorme augmentation de la fragilité du pays. Par exemple, si on continue en France, on va plus avoir de paysans. On va tout à l'heure vers cette solution parce qu'ils nous coûtent cher. Hein. Puis ils nous emmerdent, ils font du bruit, enfin ils sont dans les rues. Bon, C'est un choix. Mais à ce moment-là, si les bateaux qui amènent le matière agricole du grain des États-Unis tombent en panne, on va la sauter, quoi.
Ouais.
Donc, oui, en effet, ce serait peut-être mieux de prendre tous les paysans et de les mettre dans des usines. Je sais pas. Pas idiot, qu'est-ce qui se fait si on n'a plus de paysans? C'est la vraie question.
Oui, oui, bien sûr.
C'est une question de fragilité. Ouais, Augmentez la fragilité. Ouais. Et le rôle de l'État, c'est de, peut-être aussi d'ailleurs des citoyens qui votent en Suisse, c'est de dire ça, non, c'est fragile et ça, c'est antifragile. Et de voter eux-mêmes pour ce qu'ils veulent protéger.
Ouais.
Ce serait plutôt que de voter avec leur peuple. Ce qui m'amuse toujours en Suisse, c'est qu'apparemment, la nourriture est beaucoup plus chère en Suisse qu'en France, mais la plupart des Suisses achètent leur nourriture en Suisse, ouais, alors qu'ils pourraient faire 30 km et aller l'acheter beaucoup moins cher.
Oui, c'est vrai. Après, il faut dire que les Suisses ont un niveau de vie, ont des revenus très élevés, ce que, à cause du socialisme, en France, on n'a pas.
Ah ben non, puisqu'on a essayé de protéger les ceux qui étaient détruits par le commerce international, on les a payés à ne rien foutre, en disant que c'était le prix à payer pour avoir des choses pas chères qui arrivent de Chine. Mmh. Ça aussi, ça se discute.
Ouais.
Parce qu'il faudrait peut-être rajouter dans ce qu'on paye les objets chinois, le fait que on paye aussi les travailleurs au chômage.
Mmh. Ouais.
Il faudrait rajouter l'un à l'autre pour voir si vraiment les objets qui viennent de Chine sont si bon marché que ça.
Est-ce que vraiment l'avantage est si comparatif?
Voilà.
Ou est-ce que la comparaison est si avantageuse? Bref, est-ce que
vous venez... Il faudrait interdire aussi à la Chine de manipuler son taux de change.
Ouais.
Parce qu'ils nous vendent des trucs, mais je sais pas du tout si c'est... Normalement, leur taux de change, si on est dans un monde normal, il devrait être au moins le double de ce qu'il est aujourd'hui pour la France, quoi.
Ouais. C'est clair. Et ce que vous venez de dire donc sur l'agriculture, par exemple, ça me fait penser à une déclaration de Donald Trump. Il dit "If you don't have steel, you don't have a country."
Oui.
Donc c'est-à-dire si vous avez la production d'acier que vous faites, si elle vient que de l'extérieur, en fait, c'est comme si vous n'aviez pas de pays.
Et c'est très important ça parce que ça veut dire qu'avant ça, ils s'en foutaient puisque c'était un empire. Mais à partir du moment où les États-Unis redeviennent une nation, ils doivent faire de l'acier.
Oui.
Pour des raisons de fragilité. Parce que s'ils sont en genre en guerre, ils ont besoin de faire des obus.
Ouais.
Et les obus, ça se fait pas avec du plastique, ouais, hein, ou du carton.
C'est vrai. Et en plus de ça, il y a un aspect supplémentaire aussi, notamment vis-à-vis de la Chine. Alors, je ne sais pas si cette histoire est vraie ou si c'est une exagération ou si j'en sais rien. Mais le Wall Street Journal avait rapporté en septembre dernier que le FBI avait estimé que la Chine, par le biais de firmes contrôlées par l'État, avait hacké 260 000 objets connectés à Internet, rien qu'en septembre dernier, du coup. Donc, notamment des caméras, des routeurs Internet, etc. Et donc, là-dessus, les Américains, ils se disent « Ok, bon, alors, c'était sympa, la Chine, quand ils produisaient des vêtements ou des jouets en plastique, je sais pas quoi. Mmh. » Mais là, effectivement, ils peuvent être en position de pratiquer de l'espionnage. Et en plus de ça, il y a une rivalité quand même entre la Chine et les États-Unis. Donc il y a aussi une question de sécurité là-dessus.
Il peut y avoir une question de sécurité, mais moi je me fais toujours des questions de sécurité parce que c'est l'utilisation que font les hommes politiques pour vous.
Pour
empêcher la liberté des. Ah non, vous n'avez pas le droit d'être libre parce que vous allez faire des bêtises.
Bien sûr,
la sécurité.
C'est toujours un peu compliqué, effectivement.
Vous ne pouvez pas être partisan du libre-échange et prétendre qu'il y a de la sécurité. Ils servent tous. Hein, ça n'empêche pas les Chinois d'espionner, d'ailleurs.
C'est un peu le même raisonnement qui est à la base de l'interdiction de TikTok, hein, d'ailleurs.
Non, c'est ça. TikTok, ça marche très bien. Je suis tout le temps dessus, j'adore ça. Je le dis, hein, j'ai honte, mais je le dis. C'est les meilleures histoires de chats et de chiens que je connais, et de loin.
Je pense que beaucoup de gens vont s'identifier à ce que vous venez de dire.
Les chiens qui font des trucs incroyables, c'est toujours plein de ça. Donc j'adore ça. Mais je vois pas en quoi il faut empêcher les gamins américains de regarder TikTok. Ouais. Parce que ce serait dangereux. C'est bien meilleur que, comment il s'appelle, l'équivalent américain, là. De TikTok, celui-là.
Il y a Instagram.
Instagram, c'est bien meilleur qu'Instagram. Instagram, c'est
nul. Moi, j'aime bien Instagram.
Instagram, j'y vais jamais, moi. TikTok, c'est. Ah, puis c'est exactement ce que j'aime.
Hein. Ah oui, ça là-dessus, ils sont très très forts sur les algorithmes. En 5 minutes, ils ont compris tout ce qu'il vous faut.
Les dames toutes nues, ça ne vous intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, donc je regarde par contre les chiens et les chats, ça m'intéresse beaucoup.
Ouais, effectivement. Et alors, je pense que vous avez dû évoquer la chose, j'imagine, ce matin avec Emmanuel, mais beaucoup de gens parlent d'une comparaison avec 1929, avec la Grande Dépression, parce que notamment parce qu'il y avait aussi des gros tarifs
alors,
à l'époque.
Tu as vite fait celle-là. Si vous voulez, en 1929, d'abord, la quasi-totalité des échanges internationaux se passait sur les matières premières, surtout d'énergie et de bouffe. Il n'y avait pas grand-chose d'autre. Pas grand-chose avant. Donc c'est la première des choses. Ensuite, si vous voulez, tout le contrat, tous les soldes négatifs ou positifs étaient réglés en or. Donc comme il y avait une pénurie d'or terrible, mais qui est encore aujourd'hui d'ailleurs, ce qui se passait, c'est que si vous empêchiez un pays d'acquérir de l'or en étant protectionniste, ben lui, du coup, il avait passé sa matière, il pouvait pas croître et il partait en dépression. Donc automatiquement, le fait qu'il n'y ait pas eu assez d'or et que ceux qui en avaient suffisamment le thésaurisaient à la place de le rendre libre, ça a créé une dépression. Aujourd'hui, plus personne ne paye les soldes en or, et on les paye en soldes en dollars ou en euros, et on en a que foutre. Donc il ne peut pas y avoir une contraction de la masse monétaire de la Chine, parce que d'un seul coup, ils ne vendent plus aux États-Unis. Ça n'existe pas, alors qu'autrefois, ça aurait été automatique. Donc les gars qui vous disent ça, sont, si je peux me permettre, avec tout le respect que je dois à ces éminences, des gros crétins qui comprennent pas la nature de la monnaie, quoi. Ni à quoi elle sert.
Ouais.
Donc, mais par contre, ils ont un réflexe de passe-fluff. Quand tout le monde empêchait les États-Unis ou la France d'ailleurs de vendre des produits qu'on appelle immatériels, vous savez, les services, personne ne gueulait en quoi que ce soit. Mais je sais pas pourquoi, si vous touchez au bien, tout le monde se met à pousser des cris. Donc, si l'Allemagne empêche la France de vendre ses services, et que nous, on laisse les Allemands vendre leur bagnole,
ouais.
Bah, au bout d'un certain temps, on va avoir des déficits pas possibles vis-à-vis d'Allemagne. Mmh. Et si la France décide qu'on va plus laisser les rentrer les bagnoles allemandes, peut-être que les Allemands devraient dire, mais si vous laissez rentrer le bagnole allemand, on va peut-être maintenant vous autoriser à vendre vos services. Ce qu'ils n'ont jamais fait.
Ouais.
Donc, il y a aussi une hypocrisie terrible, c'est que le libre-échange, c'est censé couvrir simplement les trucs qui vous font mal quand ils tombent sur votre pied, des trucs lourds. Mais le libre-échange sur les services, tout ça, on ne peut pas en entendre parler. Par exemple, il n'y a pas de libre-échange dans les domaines de l'éducation.
Oui, bien sûr.
Il n'y a pas de libre-échange sur la sécurité sociale.
Ouais.
J'aimerais bien que, je sais pas, la sécurité sociale suisse vienne nous expliquer comment elle fonctionne.
Ouais.
Et nous me permettre de m'abonner à la fois à la sécurité sociale suisse, qui est chère, plutôt qu'à la sécurité sociale française. Vous voyez, il y a des tas de trucs comme ça où, là, il n'y a pas de, libre-échange, il n'y a pas de commerce. Donc, bon, dans le fond, par exemple, il n'y a pas de libre-échange dans tout ce qui touche aux échanges d'idées. Vous avez qu'à regarder depuis 4-5 ans, depuis 10 ans, on essaye de nous censurer dans tous les camps.
Ouais.
Ça les a pas gênés, les intellos. Ils étaient les premiers à censurer. Mais je sais pas pourquoi, quand on veut les empêcher d'acheter une bagnole allemande, ils se mettent à pousser des cris, quoi. M'en fous, moi.
Ouais.
Je veux dire, c'est pas le... Donc, il y a une hypocrisie énorme. D'abord, qu'est-ce que c'est que le libre-échange? Le libre-échange, c'est par exemple pas de censure. Pas de contrôle de l'information par les États. On n'y est pas vraiment. Hein.
Non, on n'y est pas vraiment. Non, non.
Et là, personne, j'ai jamais entendu M. Attali pousser des cris parce qu'il y avait trop de liberté, quoi.
Non, effectivement, là-dessus.
Ou pas assez. Donc, c'est parce que dans l'imagerie populaire, la crise de 1929 a été déclenchée par Smoot Hawley, là, qui était une législation américaine qui introduisait des droits de douane sur les produits étrangers. Bon, puis ensuite, ça a été suivi par toute une série d'imbécilités, en particulier par Roosevelt. Donc, comme sont des gens qui ne sont pas très doués, ils disent « augmentation des droits de douane sur les produits égale dépression ». Mais ils n'ont pas vu toutes les imbécilités qui ont été faites après pendant des années pour transformer ce qui était une récession en une vraie dépression. Quoi. Ça a été un travail... Comme par exemple aux États-Unis, il y a des banques qui sautaient. Mmh. Il y en a plusieurs centaines qui ont sauté. Elles ont sauté tranquillement. Et donc la masse monétaire a baissé d'un tiers sans que le gouvernement intervienne.
Ouais.
Donc c'est ça la principale cause de la dépression, c'est pas le Smooth Hartley.
Ouais, d'accord.
Et donc là, je pense pas que ça va se produire.
Ouais.
Donc moi, ce qui m'énerve beaucoup avec tout ça, si vous voulez, il y a deux métiers qui sont très emmerdants à faire, très embêtants. C'est économiste et médecin, parce que tout le monde est persuadé qu'il y connaît quelque chose. Les pauvres médecins dans les dîners en ville qui disent vous savez, docteur, j'ai mal ici, ou mais je sais ce que c'est. Médecin, ça doit être très embêtant parce que vous avez
vous avez une concurrence dans la société civile.
Une concurrence dans la société civile. Le médecin, il t'a recommandé, mais ça vaut rien ce médicament, je peux te l'assurer. Qu'est-ce que vous faites? Vous y connaissez rien, le type, lui non plus. Donc moi, j'ai l'impression de temps en temps que j'ai la même chose avec les économistes. Je me retrouve avec des gens qui me parlent d'économie. Je me dis, il a cessé d'étudier il y a 45 ans. Il me sort ce qu'il a appris à Sciences Po il y a 50 ans, qui était déjà bête.
Ouais.
Et donc j'ai quand même des grands moments de solitude.
Ah non, mais on a des grands moments. Y a un type qui s'appelle Gilles Raveau, par exemple, qui...
Oui, celui-là, il est parfait.
Celui-là, il est génial, parce que ça doit faire peut-être 30 ans, 35 ans qu'il est prof à l'université.
Il est prof ? De quoi ?
Ouais, il est prof d'économie. Il est prof d'économie. Donc il doit avoir certainement un doctorat extrêmement prestigieux, enfin voilà, tout ce qu'il faut. Et il y a quelques mois, il se demandait... Il demandait si c'était vrai que lorsque les entreprises versaient un dividende, la valeur de la part de l'entreprise diminuait d'autant que la part de dividende part d'entreprise.
Dans la journée, quoi. Ben évidemment, parce que c'est...
Sinon, ça part d'où?
Non, mais en plus, il y a beaucoup de gens qui se sont fait un métier, c'est en particulier ceux qui ne touchent pas de... Ceux qui ne payent pas d'impôts. Vous achetez... Le truc avec le dividende attaché la veille, vous touchez le dividende, il y a quelqu'un qui vous le vend qui lui veut pas toucher le dividende mais juste toucher la plus haute valeur de l'action, et donc il la vend la veille et puis vous le rachetez le surlendemain. Une fois que ça a été ça c'est des pratiques qui font la fortune des arbitrageurs, ça. Et il savait pas ça,
non,
et les brosseurs d'économie.
Ouais.
Donc c'est bien ce que je dis, si vous voulez. D'abord, il y a toute une série d'incompétents notoires, mais aussi, c'est pas parce que vous avez appris l'économie à l'université pendant je sais pas combien d'années, que vous avez une agrégation, j'en sais rien, que vous y connaissez quelque chose de la finance. Parce que la finance, c'est complètement différent.
Non, tout à fait, ils comprennent rien à la finance. En revanche, ils savent très bien comment saisir les moyens de production. Ça c'est, ils ont bien...
Oui,
ils
ont bien en même temps, ça veut dire qu'ils n'ont pas une très grosse expérience, parce que l'expérience historique de la saisie de moyens de production par la classe laborieuse, ça n'avait pas été terrible. Hein.
Non. Mais au moins, il y a des livres dessus, on peut gloser pendant des siècles là-dessus.
Les livres, ils ont 200 ans.
Oui.
Attendez, si vous me sentez exact, le capital de... le machin communiste de Marx, là, de Marx, ça a été fait en 1840-1842, ça doit faire...
Ça fait
bientôt deux siècles.
Presque deux siècles. Ouais.
Donc, peut-être l'économie n'est pas tout à fait la même, je sais pas.
Oui, et puis il y a eu des expériences tout de même.
Il y a eu des expériences, voilà.
On peut voir ce qui se passe. Par exemple, on peut regarder ce qui se passe en Argentine. Enfin voilà, c'est bien. Notre époque offre quand même des perspectives de réflexion. Pour revenir à mon document, je voudrais citer une phrase que je suis pas absolument certain d'avoir bien comprise. Notre Stephen Miran, il nous dit « Les États-Unis ont de gros déficits de compte courant, non pas parce qu'ils importent trop, mais ils importent trop parce qu'ils doivent exporter des bons du Trésor. »
Ah ben oui, ça c'est une vieille économiste. La balance des paiements, vous savez ce que c'est ? C'est des comptes courants, c'est-à-dire la balance commerciale, plus les invisibles, pour faire long, c'est-à-dire les exportations. Alors, par définition, la balance des paiements, elle est à zéro. C'est-à-dire que vous avez compte commercial plus compte... des invisibles, ça s'additionne à zéro, c'est bien pour ça que ça s'appelle une balance.
Oui.
Donc, si les États-Unis ont un déficit de leur compte courant, ça veut dire qu'ils ont un surplus de leur balance des capitaux.
Oui.
Ben oui, pour que tous les deux s'additionnent à zéro, c'est comptable,
oui,
là je peux rien.
Forcément.
Et donc, s'ils ont un surplus des balances des capitaux, ça veut dire que, ça peut vouloir dire que les étrangers veulent acheter des bons du Trésor américain pour leur sécurité, etc. Donc, s'il y a trop de pognon qui rentre pour acheter des obligations américaines, automatiquement, ça crée un déficit de la balance des comptes courants.
Oui.
Donc, ce que dit cet homme, c'est que le déficit de la balance des comptes courants vient du fait que l'appétit des étrangers pour les obligations américaines
oui.
était trop fort. Ce qui était vrai tant que vous pouviez vous servir de vos obligations américaines pour acheter du pétrole.
Oui.
Mais aujourd'hui, c'est plus vrai. Toute la thèse que je développe, c'est de dire cette obligation que le monde avait d'acheter
des dollars, des bons du trésor. Ouais. Ouais.
Maintenant, ils vont se retrouver à zéro. Donc à ce moment-là, ça veut dire que s'ils veulent payer, ils pourront plus donner des bouts de papier. Il faudra qu'ils donnent des vrais biens. Donc ce qu'il dit, c'est que c'est ce qu'il dit était vrai.
Ouais.
Mais tout l'argument que je développe sur passer de l'empire à la nation,
ouais.
c'est justement d'abandonner ça.
D'accord, très bien.
Vous avez compris ?
Oui, j'ai compris.
Ben non, je demande parce que c'est pas évident à comprendre. Hein.
Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Je pense que faudra réécouter plusieurs fois pour ceux qui.
Ben vous avez une balance, hein. Vous vendez des trucs à l'extérieur
ouais.
et puis vous recevez du pognon ouais. de l'extérieur. Ouais. Logiquement, si le système est parfaitement, ben vous vendez à l'extérieur autant que vous avez acheté à l'extérieur, c'est à zéro. Ben. Mais s'il y a des gens qui veulent acheter vos obligations, ils vont mettre votre monnaie, ça va faire monter votre taux de change,
ouais.
vous vendrez moins à l'extérieur.
Ouais.
Et la différence, c'est simplement que par exemple, quand il y a eu Reagan, le dollar est monté énormément parce qu'il y avait plein de gens qui voulaient acheter des actifs aux États-Unis parce que Reagan était là.
Ouais.
Et donc, ils ont ouvert des déficits extérieurs pas possibles.
Ouais.
Et tout le monde me disait, mais les États-Unis vont en pleine ruine. Je disais, non, c'est parce que la rentabilité du capital investi est tellement forte aux États-Unis que les gens empruntent à l'étranger pour mettre aux États-Unis. Donc, automatiquement, le déficit des comptes courants est créé par l'excès d'enthousiasme que tout le monde a pour Reagan.
Ouais.
Bon.
Du coup, ça fait que les États-Unis ont plus de mal à exporter derrière.
Ah, c'est vrai, ils ont plus de mal à exporter, donc ils se retrouvent avec un déficit.
Ouais. Voilà.
Et c'est comme ça que ça a marché pendant 45 ans. Mais ce que j'essaie d'expliquer dans les papiers, c'est que c'est fini.
D'accord.
C'est là où la chose, maintenant, ils vont être obligés d'exporter des vrais trucs.
Bah, oui. Oui, mais justement, pour pouvoir exporter des vrais trucs... Mais
il faut d'abord commencer par se réindustrialiser.
Ouais.
Et puis en attendant, on prend du pognon, ceux qui exportent chez vous,
ouais, si, ouais.
Par les tarifs. Alors, ce que les gens me disent, comme ils m'ont demandé la CNews, ils m'ont dit, est-ce que ça va marcher ? Genre, on s'est foutre rien. Mais je ne sais pas si ça ne va pas marcher. Je veux dire, la quasi-totalité des Français qui font des commentaires sur Trump disent, ça ne va pas marcher, on le sait déjà, c'est affreux.
Ouais.
Mais je dis pas que ça va marcher, mais je dis, celui qui dit avec certitude que ça ne va pas marcher, c'est un cornio, parce qu'il n'en sait rien.
Et ce sur quoi je suis absolument certain qu'ils ont tort, c'est que déjà, ils psychiatrisent la chose. En fait, comme ils ne comprennent rien, comme ils ne comprennent rien, ils disent « Non, mais c'est juste Donald Trump qui a pété une durite. D'un seul coup, il veut se faire tout le monde. » Donc, il dit « Tarif là, tarif là, tarif là. » Il a jamais étudié le machin. Bref, Donald Trump, ça fait 40 ans qu'il parle de tarifs. C'est quand même une constante dans son raisonnement. Alors peut-être a-t-il tort, mais voilà. Et pareil, le document que j'ai étudié, ainsi que toutes les interviews que donne Scott Bessent, donne une idée de quand même les raisonnements dont j'essaie
d'expliquer moi aussi. Voilà. C'est que c'est pas complètement idiot.
Non.
Ça pourrait marcher.
Ça pourrait marcher, absolument.
Ça pourrait marcher. Et voilà, si ça peut marcher, eh bien... il faut pas l'écarter d'un revers de main dédaigneux. Puis en plus, si vous êtes dans la finance, si ça se met à marcher, ben je peux vous assurer qu'il vaudrait mieux être aux États-Unis que pas y être, quoi.
Ouais.
Mais pour l'instant, j'y vais pas. Mais parce que je suis pas sûr. Mais ouais. Le jour où je serai certain que c'est en train de marcher,
ouais.
Ben j'aurai une grosse partie de mon pognon aux États-Unis, quoi. Ouais. Donc, ce qui me sidère chez tous ces gars-là, c'est qu'ils font des déclarations péremptoires et tout, et qu'il n'y a pas de sanctions. Ce que je veux dire, c'est que s'ils se trompent. On continue à leur tendre le micro la semaine prochaine, où ils vont se tromper à nouveau, etc.
Ouais.
Ce que j'aime bien dans le métier que je fais, et que vous avez commencé à faire aussi, c'est si je me trompe...
Vous avez l'air d'un con, après.
D'abord, j'ai l'air d'un con, puis ensuite, si je me trompe trop souvent, au bout de 5 minutes, j'aurai plus de clients.
Ouais. Ouais, c'est clair.
Donc, il y a une espèce de... Il faut avoir la parole rare.
Oui, il faut... Oui.
Il faut dire avec beaucoup de conviction les choses dont vous êtes certain et passer avec extrêmement de modestie sur les choses dont vous n'êtes pas sûr.
Bien sûr.
Et c'est ce que je dis aujourd'hui, c'est écoutez, je peux citer pas mal de cas historiques où ce que dit Trump a marché.
Oui.
Donc, c'est pas injouable.
Ouais. Et aussi, dans le document que j'étudiais, il y avait la question de l'inflation. Est-ce que les tarifs douaniers...
Alors, ils peuvent faire une différence. Il y a ce qu'on appelait dans le plan, dans le temps, autrefois, les dévaluations réussies et les dévaluations qui ne réussissaient pas. Alors, vous sortiez, par exemple, vous dévaluiez de 20%. Bon, boum. Et à ce moment-là, il y avait deux réponses. Ou la Banque centrale, pour compenser l'espèce de baisse du niveau de vie de ceux qui étaient rentiers, remet du pognon dans le système, crée une hausse des prix, et à ce moment-là, ça ne marche pas.
Ouais.
Ou elle dit, les gars, je ne remets rien du tout, je prends les rentiers, ils prennent une baisse de 20%, et puis je laisse tous les profits aux entrepreneurs, là, puisque on a dévalué.
Et on redémarre.
Et on redémarre, et on redémarre sur des bases saines.
Ouais.
Donc la question essentielle, c'est, il y aura... hausse des prix s'il y a inflation, c'est-à-dire si la Banque centrale remet du pognon, ce que tous les cornus réclament d'ailleurs, et il n'y en aura pas si la Banque centrale ne remet pas de pognon. Et à ce moment-là, ce sera une dévaluation réussie. Donc, je regarde M. Poel en me disant, j'espère qu'il ne va rien faire.
Oui, oui, effectivement.
Et vous lisez tous les journaux, ils disent, il faut absolument qu'il baisse les taux parce que, parce que rien du tout, bande d'andouilles.
Alors ça, justement, j'ai un peu un désaccord avec Trump là-dessus, parce que Trump voudrait que Powell baisse les taux, quand même.
Oui, c'est ce qu'il dit, oui. Vous savez, c'est parce que Trump, c'est toujours le genre de bonne taux. Il dit un truc, vous regardez là, parce que pendant ce temps-là, vous regarderez pas là-bas, quoi. Et parce que c'est ce que le... Peut-être le pense, d'ailleurs. Mais ça n'a pas d'importance, parce qu'il est entouré de gens compétents, mais... Mais ça a été quand même un développeur immobilier une grosse partie de sa vie. Et pour le développeur immobilier, avoir des taux bas, c'est toujours une bonne idée.
Ouais.
Donc, il y a peut-être ça aussi.
Effectivement, il y a peut-être des réminiscences de ça. bref. Et puis, il y a un dernier aspect aussi qui, à mon avis, on ne peut pas faire l'économie de ça. C'est que ces tarifs, c'est quand même utilisé aussi comme une arme, comme un levier de négociation.
Bon, évidemment, regardez, il a commencé. Trump. Il a mis des tarifs. Ils sont 100 millions de Vietnamiens, ce qui me paraît absolument extraordinaire. Je me suis rendu compte récemment que les Vietnamiens étaient 100 millions.
On regarde la semaine dernière, ils sont 70 millions.
non, ils sont 100 millions. Donc, il y a beaucoup de, c'est un grand pays, il y a beaucoup de monde.
Ouais.
Et donc, il leur a collé des tarifs pas possibles.
Ouais.
Mais parce que ils avaient eux-mêmes mis des tarifs pas possibles sur les États-Unis. Et ils ont déjà téléphoné à la Maison Blanche en disant, si vous voulez, on passe à zéro, sur vos tarifs. Donc, il y a déjà 50 pays qui sont arrivés en disant, nous, on avait laissé les tarifs sur vos produits parce que on n'y pensait pas, mais si vous voulez, on les enlève, quoi.
Ouais.
Donc, ça veut dire que, aussi curieux que ça paraisse, le but ultime de Trump, c'est qu'il n'y ait plus de tarifs du tout.
Oui, en fait, c'est un peu un paradoxe. C'est-à-dire que cette application de tarifs extrêmes fait que tout le monde a envie de dire « Bon, bah, ok, si c'est comme ça, moi, je mets mes tarifs à zéro, tu mets tes tarifs à zéro, tout le monde est content, on reprend le libre-échange comme
il
faut, quoi. »
Ça, c'est ça le truc à vue.
Ouais.
Alors que tous les gars qui négocient en envoyant des grands spécialistes à la... dans des réunions internationales, aux réunions des pays, etc., à l'ONU. Ça négocie pendant... Moi, je connaissais un gars qui était argentin, qui était ministre du commerce extérieur il y a quelques années, en Argentine. Et il me racontait qu'ils avaient fait des réunions comme ça à Genève pour dans le cadre de la libération des mouvements de je sais pas quoi, enfin bref. Et que les trois premières semaines, ça s'était passé sur la discussion de la forme de la table où aurait lieu la négociation. Ronde, pas ronde. Mais il m'a dit, c'était pas des blagues. Hein. Donc, quand vous produisez le truc. Donc, ce qu'il y a de bien avec Trump, c'est que la forme de la table.
Oui.
C'est pas son sujet.
À la limite, il n'y a pas de table, on fait ça au téléphone.
Je vais la casser, votre table.
Ouais.
Non, mais c'est rigolo, quoi.
À la limite,
Donc, les diplomates, c'est quand même des gens qui reste des heures, parce que c'est agréable d'être à Genève, quoi.
Ouais.
C'est mieux que d'être en Argentine.
Effectivement, je peux comprendre.
Donc, vous voyez, il y a tout ça aussi, c'est-à-dire qu'on n'imagine pas, dès que vous êtes dans ce monde-là, vous confiez la gestion à des diplomates, mais ça va prendre les 18 ans qui viennent, et il ne se passera rien. Tandis que si c'est vous qui dites, écoutez, je monte les tarifs à 100%, puis ensuite on verra, vous pouvez venir, et à ce moment-là, les types, ils ont c'est le président local qui a son attention éveillée, et donc il dit non, on va baisser les tarifs tout de suite à zéro parce que sans ça nous on va beaucoup souffrir. Donc la méthode de diplomatique de Trump, c'est quand même, je te donne un grand coup dans la gueule et puis je te demande, est-ce que tu as bien compris ce que je voulais dire?
Oui.
Bon, c'est pas très élégant, mais ça marche.
Mais ça marche plutôt, oui. De toute façon, à chaque fois, c'est comme ça. Trump demande quelque chose qui paraît tout à fait excessif. Tout le monde se fout de sa gueule en disant, voilà, mais il obtiendra jamais ce qu'il veut. Et puis après, il y a quelques négociations. À la fin, il obtient ce qu'il veut. Et puis, tout le monde la ferme. Et puis après, il demande le truc d'après.
Et
ça va très, très vite à chaque fois.
Il a compris que ce que disait Theodore Roosevelt, c'est que la diplomatie, c'est d'avoir un très gros bâton et de parler doucement dans l'oreille des gens, quoi.
Ouais.
Mais lui, il met un gros coup de bâton d'abord, et puis ensuite, il leur parle doucement.
Oui.
Roosevelt, il leur parlait doucement, et ensuite, il mettait le coup de bâton s'ils n'avaient pas bien compris. Donc, c'est deux façons de concevoir la diplomatie.
C'est sûr. Non, mais là-dessus, effectivement, c'est fondamental, parce qu'il y a tout un tas de pays, forcément, qui se mettent déjà à la table des négociations. D'autant que, en fait, il y a derrière ce qu'on appelle le FOMO en anglais, le Fear of Missing Out. C'est-à-dire que les États-Unis importent un certain nombre de produits. Bon, bah, il y a tous les pays qui sont en train de négocier, machin. Et une fois que toutes les importations auront été faites et que, par exemple, vous produisez de l'acier, j'en sais rien, tous les pays producteurs d'acier ont déjà négocié avec Trump, 0% de droits de douane, machin. Donc ensuite, si vous voulez exporter votre acier, vous avez intérêt à être là plutôt que les autres, parce que sinon, bah, on va vous dire, bah, c'est bon, on a déjà tout ce qu'il nous faut, nous. Donc on n'a pas de raison de négocier avec vous. Voilà, on a ce qu'il faut. Donc ça fait un effet comme ça où on a envie de se dépêcher pour pas être le dernier à négocier, parce que le dernier, il aura rien du tout. Hein.
Vous avez été pensionnaire dans votre vie?
Non.
Parce que sinon, vous auriez, quand vous êtes pensionnaire, il y a le plat de frites qui arrive avec, vous savez.
Et là, faut se dépêcher, ouais.
Ben, il faut aimer le premier, celui qui est au fond de la table, en général, il a plus de frites, vous savez.
Ouais.
C'est toujours pareil. Vous apprenez ça dans les pensions, hein.
Ouais. Bon, cela dit, ça marche aussi un peu à la cantine.
C'est pareil.
Ça marche un peu. En général, nous, les garçons, on aime bien prendre du temps à faire un foot au début, et puis après, on se dit, quand même, si on prend trop notre temps, il y aura plus de frites à la cantine. Donc,
il y aura plus de frites, c'est pour ça. Et le jour des frites, le match de foot est plus court.
Ouais, effectivement. C'est toujours comme ça que ça se passe. Donc voilà, il y a tout un tas de choses que Trump peut demander.
Mais ce que j'essaie de dire, ce que je veux dire par là, c'est cette baisse qui se passe aux États-Unis,
ouais.
Qui a commencé, c'est la baisse des valeurs de l'Empire.
Ouais.
Et c'est aussi les valeurs indexées. Parce que les valeurs de l'Empire, c'est celles qui faisaient les indices.
C'est
parce
sûr. C'est celles qui sont dans plus d'indices différents.
Qui sont partout et qui sont là depuis longtemps et qui ont profité de l'Empire.
Voilà.
Donc ce qu'il faut, c'est sortir des indices si vous voulez rester aux États-Unis et aller chercher des valeurs de la nation individuelle. Et à ce moment-là, je crois que vous ferez pas mal de pognon. Mais il faut absolument sortir des indices parce que les valeurs de l'Empire, elles sont parties pour aller au tapis. Hein. Enfin, pour être vendues beaucoup moins cher.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que c'est ce dont on parle de temps en temps sur l'université de l'épargne. Peut-être aujourd'hui, si vous voulez vous exposer au marché américain, peut-être privilégier un S&P equally weighted.
Par exemple, ça c'est déjà beaucoup mieux.
Effectivement, parce que bon, même si depuis quelques semaines, du coup, la taille de ces entreprises a un petit peu diminué dans l'indice, ça reste quand même assez important. Et donc, effectivement, sur tout ce qui est gestion indexée, vous retirez vos ETF en S&P 500, en Nasdaq, en tout ce qui est fonds de technologie, etc. Et vous retrouvez à chaque fois ces mêmes sociétés. Donc forcément, ces sociétés souffrent le plus justement.
Alors, ce qui est marrant, c'est que vous avez ces gros indices dans les sociétés. Donc vous voulez vous débarrasser de ça. Vous vendez l'indice. Donc ça fait baisser les Microsoft, j'en sais rien, qui baissent. Mais alors,
ça fait
si l'indice, du coup, dans l'indice, il y avait 4 ou 5% de... Allez, d'Exxon, pas énorme. Et puis, Exxon se pète la gueule, parce que quand vous vendez l'indice, vous vendez Exxon aussi.
Ouais.
Et donc, Exxon se pète la gueule. Donc, le jeu, c'est peut-être aujourd'hui de vendre et puis d'acheter Exxon qui s'est pété la gueule. Autant celui-là, il a raison de baisser, autant celui-là, je vois pas trop bien pourquoi il a baissé. Mais ça fait rien, vous en avez pris plein la gueule quand même.
C'est pareil, je regardais aussi ce matin l'action de Berkshire Hathaway. Ouais. Donc, Berkshire Hathaway, c'est le fonds de Warren Buffett. Qui se comporte bien globalement sur l'année, mais qui a quand même pris cette grosse baisse là des derniers jours parce que gestion indexée, alors que pourtant justement ils sont assis sur 300 milliards de bons du Trésor, donc eux ils sont très bien, ils ont pas de problème, mais l'action a quand même baissé à cause justement de l'effet
je suis vendu quoi.
Je regarde même pas ce que je vends, je vends tout de toute façon.
Si vous vendez l'indice, vous vendez tout.
Ouais, bien sûr. Donc forcément, ça impacte beaucoup de sociétés en même temps, et pas que celles qui vont être vraiment, pour le coup, impactées par tout ce dont on
C'est ce
parle.
qu'on dit en un proverbe haussier qui dit quand la police fait une descente sur le bordel, ils emmènent tout le monde, même le
Même le
pianiste.
pianiste, ouais.
Vieille formule.
Effectivement. Bon, je crois qu'on a fait un bon petit tour quand même
voilà,
maintenant
bah
de l'explication de
c'est
ces tarifs. Je pense que ça
Donc
aura
l'idée, c'est
éveillé pas mal de
peut-être
gens.
Trump n'est pas complètement crétin. L'idée, c'est pas certain du tout que ça va échouer. L'idée, ça aura aucune influence internationale parce que tout le monde s'en fout, c'est beaucoup trop petit. Et en plus, les banques centrales sont là pour faire leur métier, il n'y a pas de risque de pénurie de liquidité. Donc, c'est pas 1929.
Ouais. Effectivement, je pense que c'est au milieu d'un océan effectivement de comment dire d'alarmisme comme ça. Il y a toujours ceux qui étaient bien là pour prédire 30 des 5 dernières crises, des 5 dernières.
Tout le monde l'a bien dit.
Ouais. Donc forcément, au bout d'un moment, ils auront bien raison. Mais aujourd'hui, c'est pas ce que l'on voit. Donc voilà, je crois que c'était pas mal comme émission. Et de toute façon,
bravo, je suis d'accord.
Je pense qu'on en reparlera certainement sur l'université de l'épargne, mais d'une façon
plus précise.
Plus
en
précise.
Disant, pourquoi expliquer ce que vous devez faire maintenant.
Voilà, exactement. Comment ça impacte le portefeuille. Là, c'était plus de manière générale. Donc voilà, je vous remercie bien sûr de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur l'Institut des Libertés.
Merci mille fois.
En 1970, il y avait un retraité pour 4 actifs. Aujourd'hui, c'est un retraité pour 1,7 actif. Et en 2060, c'est-à-dire quand ma génération commencera à arriver à la retraite, ce sera plutôt proche de 1 actif pour un retraité. L'État sera selon moi incapable de délivrer sa promesse d'une retraite digne. Et donc pour apprendre à se constituer sa caisse de retraite, tout seul, de son côté, dans son coin, et de ne pas dépendre de ce qui restera de l'État français alors, dans 40 ans, rejoignez-nous sur l'Université de l'Épargne.